Le moine est mort.
Or, le même événement naturel qui, pour l'heure à la cour de France, comblait de joie la reine et la comtesse de Poitiers, allait répandre drame et désastre dans un petit manoir à 10 lieues de Paris. Marie de Crécy, depuis quelques semaines, avait le visage ravagé d'angoisse et de chagrin. Elle répondait à peine aux questions qu'on lui posait. Ses yeux bleus sombres s'étaient agrandis d'un cerne mauve, une petite veine se dessinait sur sa tempe transparente. Il y avait de l'égarement dans son attitude. « Ne va-t-elle pas nous refaire un mal de langueur, comme l'autre année ?» disait son frère Pierre. « Mais non, elle ne maigrit pas, » répondait Dame Eliabelle. « Une impatience d'amour, voilà ce qui la tient, et ce Guccio lui trotte par la tête. Il est grand temps de la marier. » Mais le cousin de Saint-Venant, pressenti par les Crécy, avait répondu que les affaires de la Ligue d'Artois l'occupaient trop, dans le moment, pour qu'il pût songer au mariage. « Il a dû s'enquérir de l'état de nos biens, » disait Pierre de Crécy. « Vous verrez, ma mère, vous verrez, nous regretterons peut-être d'avoir écarté Guccio. » Le jeune Lombard continuait d'être reçu de temps à autre au manoir, où l'on feignait de le traiter en ami, comme par le passé. La créance de 300 livres courait toujours ainsi que ses intérêts. D'autre part, la disette n'était pas terminée. Et les Crécy n'avaient pas été sans s'apercevoir que le comptoir de Naufle ne se trouvait pourvu de vivres que les jours précisément où Marie s'y rendait. Jean de Crécy, par un souci de dignité, demandait parfois à Guccio le compte de leurs dettes. Mais une fois la note en main, il négligeait d'en acquitter la moindre partie. Et Dame Eliabelle laissait sa fille aller à Naufle, une fois la semaine, mais la faisait maintenant accompagner de la servante et lui mesurait soigneusement le temps. Les entrevues des époux clandestins étaient donc rares, mais la jeune servante se montrait sensible à la générosité de Guccio et de plus, Ricardo, le premier commis, ne lui était pas indifférent. Elle rêvait d'une position bourgeoise et s'attardait volontiers parmi les coffres et les registres, écoutant l'agréable tintement de l'argent dans les balances, tandis que le premier étage de la banque abritait des amours pressés. Ces minutes, dérobées à la surveillance de la famille Crécy et aux interdits du monde, avaient d'abord été comme des îlots de lumière pour cet étrange ménage qui ne comptait pas encore 10 heures de vie commune. Guccio et Marie vivaient sur le souvenir de ces instants-là pendant une semaine entière. L'émerveillement de leur nuit de noces ne s'était pas démenti. Aux dernières rencontres, toutefois, Guccio avait noté un changement dans l'attitude de sa jeune femme. Lui aussi, comme Dame Eliabelle, avait remarqué chez Marie l'anxiété du regard, la tristesse et l'ombre neuve qui lui mangeait les joues. Il attribuait ces signes aux difficultés et aux menaces qui pesaient sur leur situation, fausses s'il en fut. Le bonheur dispensé à la petite mesure est toujours enveloppé des haillons du mensonge, devient vite une torture. « Mais c'est elle-même qui s'oppose à ce que nous déchirions le silence, » se disait-il. « Elle prétend que sa famille ne voudra jamais reconnaître notre union et me fera poursuivre, et mon oncle est de même avis, alors que faire ?»« De quoi vous inquiétez-vous, ma bien-aimée ?» lui demanda-t-il le 3e jour de juin. « Voici plusieurs fois que nous nous voyons et que vous me paraissez moins heureuse. Que craignez-vous ? Vous savez bien que je suis là pour vous défendre de tout. » Devant la fenêtre s'épanouissait un cerisier en fleurs tout bruissant d'oiseaux et de guêpes. Marie se retourna, les yeux humides. « De ce qu'il m'advient, mon doux aimé, répondit-elle, vous-même ne pouvez point me défendre. Que vous arrive-t-il donc ? Rien que ce qui doit par Dieu me venir de vous ? Dit Marie en baissant la tête. Il voulut s'assurer d'avoir bien compris. « Un enfant ? Murmura-t-il. Je craignais de vous l'avouer. J'ai peur que vous m'en aimiez moins. » Il resta quelques secondes sans pouvoir prononcer un mot, parce qu'aucun ne lui venait aux lèvres. Puis il lui prit le visage dans ses mains et la força de le regarder. Comme presque tous les êtres destinés aux folies de la passion, Marie avait un œil légèrement plus petit que l'autre. Cette différence, qui ne nuisait en rien à sa beauté, s'accentuait dans l'état de trouble où elle se trouvait et rendait son expression plus émouvante. « Marie, n'en êtes-vous pas heureuse ?» dit Guccio. « Oh, certes, je le serai, si vous l'êtes aussi. »« Mais Marie, c'est merveille !» s'écria-t-il. « Voici qui nous comble, et nos épousailles vont devoir éclater au plein jour. Votre famille sera bien forcée de s'incliner cette fois. Un enfant, un enfant !» Et il la regardait de la tête aux pieds, tout ébloui. Il se sentait homme, il se sentait fort. Pour un peu, il se fut penché à la fenêtre, et il eut crié la nouvelle à tout le bourg. Ce jeune homme, dans l'instant qu'une chose lui survenait, la voyait toujours sous la meilleure apparence. Il n'apercevait que le lendemain les ennuis qui pouvaient résulter de ses actes. Du rez-de-chaussée monta la voix de la servante qui leur rappelait l'heure.
« Que vais-je faire ? Que vais-je faire ?» dit Marie. « Jamais je n'oserais l'annoncer à ma mère. »
« Eh bien, c'est moi qui viendrai le lui dire. »«
Attendez, attendez, encore une semaine. »
Il la précéda dans l'étroit escalier de bois, lui présentant les mains pour l'aider à descendre, marche par marche, comme si elle était devenue éminemment fragile et qu'il dût la soutenir à chacun de ses pas.
« Mais je ne suis point encore gênée, » dit-elle.
Il sentit ce que sa propre attitude avait de comique et eut un grand rire heureux. Puis il la prit dans ses bras et ils échangèrent un si long baiser qu'elle en perdit le souffle.
« Il me faut partir, dit-elle.